franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'absinthe et le pastis.
Pourquoi l'idée de fabriquer cette boisson ? Eh bien, c'est parce qu'il y avait ici un braconnier, un ancien coiffeur du Bourget, qui connaissait toutes les herbes de la montagne, des garrigues qui nous entourent, là, et il m'avait donné une première formule que j'ai modifiée après.
Une marque célébrissime dont le légendaire et l'imagerie font l'objet d'une exposition qui vient d'ouvrir au Musée des Arts Décoratifs à Paris, a réussi à faire croire que les boissons anisées étaient des produits de terroir, constitutifs du Midi, on serait même tenté de dire de la Ricardie. Dans la réalité, le pastis et avant lui l'absinthe sont des fabrications qui peuvent aussi bien se préparer à Pontarlier ou à Lyon, à Créteil ou à Marseille. C'est à certains égards une faiblesse. Le produit n'a pas derrière lui des bouilleurs de cru ou des vignerons bien enracinés. L'alcool de nos alambics paysans et le vin de nos vignobles constituent, dit-on, une richesse nationale, de l'absinthe à la couleur incertaine qui brille dans la nuit des villes. On a pu dire, en revanche, que c'était le mal national. Chacune des deux guerres du siècle dernier vit l'interdiction des boissons anisées. Après la législation de 1940, le pastis put rebondir au point de passer pour un attribut de la résistance. L'absinthe, elle, ne survécut pas au texte couperet de 1915, à moins qu'on puisse ressusciter l'alcool interdit, ce à quoi s'emploie depuis bien longtemps Marie-Claude Delahaye, notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
On peut dire que vous êtes une servante de la fée verte.
On peut dire ça, puisque mon premier livre date de 1983. Après avoir trouvé une petite cuillère aux puces, une cuillère percée, qui m'a posé beaucoup de questions, en 1981.
Alors vous faites visiter aux sages pèlerins l'absinthe au vert pilier, chez Vincent,
à Auvers-sur-Oise. Oui, à Auvers-sur-Oise, à côté de Vincent et à côté des impressionnistes.
Ouais. Mais dites-moi, vous êtes biologiste de profession ?
Oui, université Pierre et Marie Curie, auprès des étudiants de médecine.
Ah ben ça nous rassure. L'association qui paraît évidente, Anisette Méditerranée, il faut la contrebattre parce que l'absinthe ne naît pas du tout là.
Alors l'absinthe commence à la fin du XVIIIe siècle, en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. Et là, on a un élixir de bonne santé fabriqué par une bonne femme, la mère Henriot. Et cette recette va être achetée par un commerçant très avisé, le major Dubier, qui est courtier en dentelle, qui n'y connaît rien, et qui va donc demander l'aide d'un jeune homme dont le père est bouilleur de cru et qui s'appelle Henri-Louis Pernaud. Donc, première distillerie 1798, et puis Pernaud va passer la frontière et s'installer à Pontarlier dans le Doubs. Donc, dès 1805, nous avons la première usine, la maison Pernaud Fils.
Alors, après, il y a des axes de distillation qui se dessinent vers le Midi, vers l'Île-de-France, ou bien ça dissémine l'absinthe ?
Alors, pas tout de suite. L'absinthe va rester régionale pendant quelques 25 ans. Il y aura 2-3 distilleries sur Pontarlier, mais surtout, il y aura Pernaud qui exportera dans le monde entier. Et puis, arrive 1830, donc là, on envoie les troupes à la conquête de l'Algérie. Et dans le paquetage du soldat, il y a les fioles d'absinthe qu'ils vont mettre dans l'eau des marais qu'ils vont boire pour se protéger de la malaria et de la dysenterie. Donc, conquérant de l'Algérie, ils reviennent à Paris, s'attablent au beau café des boulevards, et là, la bourgeoisie, les artistes vont s'y mettre, et l'absinthe régionale devient la fée verte des boulevards.
Ah, les beaux cafés des boulevards.
Ah, monsieur, le quartier se transforme. Moi qui vous parle, j'en ai vu des changements. Avant, la clientèle, c'était des gens de tous les jours. Maintenant, il y a des étrangers. Hier soir, on a eu un grand-duc.
Un grand-duc ?
Oui. Attention, vous allez noyer votre absinthe.
Merci.
Il a commandé du champagne. On n'en avait pas. Il a bu de la verte comme tout le monde. Il m'a laissé un louis de pourboire. Il y a que la reine blanche qui change pas.
Garçon !
Monsieur ? Merci, monsieur.
Les prémices du Moulin Rouge. Jean Gabin dans French Cancan. La verte qu'on noie. Alors, l'absinthe, on la noie, on la trouble, on la bat, on la frappe, on la mouille.
Alors oui, il y a toutes ces expressions-là. Alors l'absinthe, c'est quand même un ensemble de plantes. Il y a la grande absinthe, mais les plantes qui apportent la saveur anisée, qui sont le fenouil, l'anivert, la badiane, on va ajouter la mélisse. Et toutes ces plantes séchées, concassées, sont mises à macérer dans un alcool fort, puis distillées. Donc l'absinthe, c'est un alcool qui va contenir tous les principes actifs, toutes les huiles essentielles de ces plantes et qui titre dans la bouteille 68 ou 72 degrés.
Aider.
Donc on va forcément la diluer. Vous avez des verres qui sont hauts et larges puisqu'on va ajouter à un volume d'absinthe 6 à 7 volumes d'eau fraîche. Alors on ne met pas l'eau n'importe comment. On va la faire tomber goutte à goutte sur un sucre qui est posé sur une petite cuillère percée, elle-même placée sur le verre.
Pour que chacune des plantes dont vous nous avez fait l'inventaire exhale son arôme.
Alors c'est l'eau qui va tomber sur l'absinthe qui va effectivement exhaler les arômes.
La verte, dit Gabin dans le film, la couleur propre de chaque absinthe peut être différente.
Alors à la fin de la distillation, l'absinthe est toujours blanche. Donc l'absinthe blanche existait. Et puis on faisait macérer dans cette absinthe blanche de la petite absinthe et de l'hysope. Et c'est la chlorophylle de ces plantes qui allait donner la teinte verte. Alors suivant la proportion des plantes, suivant le temps de chauffe, la couleur va aller du jaune au vert, enfin différents tons de vert. Donc chaque marque va aménager sa formule et avoir sa teinte propre.
Chaque marque de distillation, mais dites-moi, il n'y a pas des marques ou des clandestins qui procèdent par addiction d'essence à de l'alcool?
Alors
ça, c'était la mauvaise absinthe.
C'était une façon de procéder, mélanger des huiles essentielles donc dans de l'alcool. C'est ce qu'on appelait les absinthes à froid. Et alors ça a été le point de départ de nombreuses falsifications, puisque les huiles essentielles, les essences de plantes sont quelquefois de provenance inconnue. Et l'alcool, pas toujours de bonne qualité, voire quelquefois de l'alcool méthylique. Donc ça a été vraiment un des problèmes de santé publique.
D'autant qu'il faut alimenter en absinthe les innombrables débits de boissons. Il y a une loi très libérale pour les débits de boissons en France en 1880. Les cafés sont les parlements du peuple et ils sont fréquentés de plus en plus par les classes populaires. Ici, un terrassier dans un fait divers que rapporte la presse, et puis un couvreur, celui qui est tombé de son toit dans l'assommoir et qui se console au bar, au café.
Très fier de ses prouesses de buveur, Joseph B., ouvrier terrassier, comptait hier, 7 février 1898, devant le comptoir d'un marchand de vin, qu'autrefois, en Afrique, étant aux Zouaves, il avait bu 12 verres d'absinthe pendant que sonnaient les 12 coups de midi. Ses camarades crièrent au mensonge. Joseph B., piqué au vif, paria de renouveler cet exploit séance tenante. On tint le pari. 12 verres d'absinthe furent servis. On attendit que les 12 coups sonnassent et, au premier, le terrassier but un verre. Puis, deux. Au troisième, le malheureux goula sur le trottoir. Il avait succombé à une congestion. Il était âgé de 40 ans et était père de 6 enfants.
Il casse les poules maintenant. Quel Balthazar. Et les ballons rouges. Oh, ça file, ça saute. Oh, puis ça saute. Tragique. Lanterne dans les herbes. Quoi ? Salaud ! Salaud ! Salaud !
Reste tranquille, voyons !
Laissez-moi ! Lâchez-moi ! Serre tes jupes ! Serre tes jupes, toi ! Serre-toi tes jupes, c'est à toi qu'ils en veulent ! Ils voudraient te buter, ces gars, viens ! Mais Clément, hein ? Ouais ! Mais Clément, tu m'y es, Clément, hein ? Ouais ! Ouais ! Ouais !
Oui, au début, Lantier cherchait dans l'absinthe la consolation, puis va finir par y trouver la folie, c'est ce que disent Émile Zola. Et le cinéaste, ici, René Clément, absinthe égale Carrefour, Carrefour Charenton.
Alors, correspondance pour Charenton. Mmh. On disait aussi un train direct, ça dépend à quelle vitesse on allait. Donc, alors, l'absinthe, évidemment, passé la période d'initiation, où l'on met 6 à 7 volumes d'eau, eh bien, on va commencer à mettre un peu moins d'eau, puis encore un peu moins, on fait ce que l'on appelle des purées, jusqu'à la boire pure. Mais alors là, on a des cas extrêmes. Et alors, ce qu'on appelle la folie absinthique, c'est en fait une folie alcoolique, doublée un peu par la présence des plantes aromatiques qui composent l'absinthe et qui, sur le long terme, chez l'alcoolique chronique, va finir par engendrer des problèmes physiologiques.
Fin 19e, début 20e siècle, lutte hygiénique, le mot alcoolisme date du milieu du 19e, ligue de tempérance, relais politique, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, des médecins, des aliénistes, des hygiénistes, comme on disait, vont s'émouvoir de l'alcoolisation des classes populaires qui arrive autour des années 1860-1870. Et là, il va y avoir des mouvements de tempérance différents, groupés aussi autour de Louis Pasteur, de Claude Bernard. Et tous ces mouvements privés seront repris en 1905 pour constituer la Ligue nationale contre l'alcoolisme. Et là, on aura vraiment des conférences dans les usines, des conférences dans les écoles, dans l'armée. Vraiment une prévention contre l'alcoolisme, un peu tous azimuts. Et puis, il y a le relais politique qui va suivre.
Avec des essais de législation. Et alors, ce qui vous étonne, c'est que les mêmes qui sont avec acharnement contre l'absinthe peuvent être pour le vin. Il est vrai que 1907, c'est la grande crise de la viticulture française. Mais de là à organiser cette année-là au Trocadéro, c'est le Matin, journal à scandale qui faisait ça, un meeting où on chantait tous pour le vin, tous contre l'absinthe, c'est étrange.
Alors, il faut dire que le vin faisait vivre quand même une personne sur 6 en France, ce qui est énorme. Et l'absinthe, sur certaines publicités, on lit « absinthe nationale ». Donc l'absinthe avait vraiment remplacé, à l'heure de l'apéritif, les flacons de vin que l'on buvait. Donc l'absinthe a vraiment gêné le vin. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y avait aussi des fraudes autour du vin. Certains remettaient du sucre dans le mou, le faisait recuire, ajoutait de l'alcool industriel pour augmenter le degré. Et donc, le marché a été inondé. Et il y a eu une crise très grave de mévente de vin. Et les viticulteurs, évidemment, s'en sont pris à l'absinthe en se ralliant aux ligues anti-alcooliques.
Enfin, cependant, avant la guerre de 14, les textes contre l'absinthe titubent, ne trouvent pas la porte de sortie, sont renvoyés en commission. Mais, évidemment, la Grande Guerre change le paysage et là, c'est l'interdiction de la fabrication, de la vente, de la consommation, de l'absinthe et des similaires de l'absinthe 1915.
Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 40 ans de discussion avant d'arriver à cette loi et 20 ans de dépôt de loi à la Chambre et au Sénat. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. L'État disait, mais le geste serait beau de sacrifier 60 millions de francs or sur l'autel de l'hygiène publique, mais où les trouver ?
En tout cas, la ration de vin a été doublée pendant la Grande Guerre pour les soldats, l'interdiction de l'absinthe coïncide avec l'apogée de la Madelon. Ici, c'est plutôt Barbara, si vous le voulez bien.
Il buvait de l'absinthe comme on boirait de l'eau. L'un s'appelait Verlaine, l'autre c'était Rimbaud. Pour faire des poèmes, on ne boit pas de l'eau. Aujourd'hui, les « je t'aime » s'écrivent tant de mots. Fini les longs poèmes, la musique des mots, dont se grise Verlaine, dont se saoulait Rimbaud. Les vapeurs de l'absinthe m'embrument. Je vois des fleurs qui grimpent au velours des rideaux. Quelle est donc cette plainte lourde comme un sanglot? Ce sont eux qui reviennent. Et puis encore, au vent glacé d'hiver, entends les qui se traînent, les pendus de Rimbaud, les noyés de Verlaine, que la mort a figé aux eaux noires de la Seine, où j'ai mal de les entendre encore et puis encore. bateau ivre nous mène à la dérive, qu'il sombre au fond des eaux et qu'avec toi je meurs.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Adieu absinthe, avec Marie-Claude Delahaye qui a publié nombre de livres sur l'absinthe, édité parfois par son musée de l'absinthe à Auvers-sur-Oise. Et Bonjour Pastis, avec Marie-Claude Delahaye qui a publié plusieurs livres aussi sur le pastis.
Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains.
Quel breuvage prépare Fernandel dans son bar? Vous l'avez deviné, du pastis, du vrai. À titre exceptionnel, pour le 1er janvier, il va le faire apprécier de Marseille dans un verre. Mais son jeune fils veut être lui aussi de la fête. Nous nous ressemblons comme deux gouttes de pastis, pense Monsieur Fernandel père avec orgueil.
Fernandel fait de la publicité pour les boissons anisées dans les années 1930. Mais on avait laissé les choses en 1915. Une exposition ouvre aux Arts Déco à Paris. Ricard avant 32. Mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé entre 1915 et 1932? Et pourquoi le pastis a-t-il pris la place de l'absinthe? Est-ce que les lois se sont peu à peu détendues?
Alors, jusqu'en 1920, il ne se passe rien. L'absinthe est interdite, tout contrevenant à une amende, voit son débit fermé, se retrouve en prison, donc c'est très sévère. Et puis en 1920, l'État va autoriser la présence d'anis dans les spiritueux, mais ils ne doivent en rien ressembler à l'absinthe. Ils seront à 30 degrés, il doit y avoir un minimum de 200 grammes de sucre dedans, alors que l'absinthe n'était pas sucrée, et ils ne doivent pas avoir la couleur vert feuille morte qui rappelle l'absinthe.
Oui, alors vous me dites les gens se retrouvent en prison, mais enfin, avant que n'intervienne une nouvelle loi dont vous allez nous parler en 1932, il y a eu une période de pastis, mais pastis au sens d'embrouille, les alambics transpirent, les fioles illicites circulent. À mon avis, le jeune Paul Ricard a dû faire ses débuts dans la clandestinité.
Dès l'âge de 17 ans, il a installé un petit labo de chimie chez son père.
Il est né en 1909, fils de boulanger et de commerçant de vin.
Et donc, il commençait à faire des mélanges. Il avait une recette du pâte à clé, on disait le pâte à clé, du père Estanet qui allait dans la montagne. Et donc, il a commencé à faire ses mélanges de pastis, mais ce n'était pas commercialisé. Il les a déjà fait goûter à l'armée, à ses copains de chambrée. Ensuite, il allait dans les cafés faire goûter aux cafetiers et aux consommateurs pour avoir leur avis et améliorer son produit. Il attendait son heure.
32, c'est l'heure, loi providentielle.
Alors, 32, effectivement, il y a la libéralisation des anisés dans la mesure où il n'y a plus de sucre. Ça veut dire qu'on passe du digestif à un nouveau un apéritif. Donc là, on a un nouveau un apéritif. Et donc Ricard va proposer son pastis.
Donc, libre édulcoration autorisée à condition que le tirage de l'alcool soit à 40 degrés maximum.
Oui, ça ne devait pas dépasser 40 degrés.
Alors, il est très bien placé sur ce marché-là. Et puis, 1938, alors là, c'est l'apothéose.
Oui, parce qu'on passe à 45 degrés.
Nouvelle loi.
Nouvelle loi, on passe à 45 degrés. Et donc là, ça permet la dissolution dans l'alcool davantage d'huile essentielle d'anis. Et donc, le pastis va avoir toute sa saveur.
Alors, c'est la période d'explosion du pastis, cette fin des années 1930. Il n'y a d'ailleurs pas que Ricard, la femme du boulanger. On parlait de Ricard, fils de boulanger. Le film de Pagnol avec Rému date de 1938. Et puis écoutez le nom qui revient là, dans cette scène fameuse au tout début.
Garçon, une bouteille de Pernod.
Je veux dire un Pernod.
Une bouteille de Pernod.
Une demi-bouteille.
Mais bon Dieu, je parle français. Une bouteille de Pernod avec un arrosoir d'eau filtrée pour boire.
Il y a le boulanger à la terrasse, il fait une drôle de tête. Il veut une bouteille de Pernod entière et un arrosoir d'eau.
Un arrosoir? Mais pour arroser quoi?
Le Pernod.
Ça y a tapé sur le cigare, il veut se saouler, ça se défend.
Ouais, mais il faudrait pas qu'il se tue.
Eh bien, Casimir, on va y parler.
Alors, on va lui donner son Pernod, hein.
Oh, oh, voyager. Alors, paraît que tu as soif.
Une bouteille d'un litre, mais dis donc, tu vas pas de même honte.
Oh, c'est pas que j'ai soif, non, je vais vous pas soif seulement avec tous ces événements-là. Tout à l'heure, j'ai rencontré le papé. Oui, il a vu le berger partir avec ma femme. Je sais bien qu'il est gâteux, le papé, mais enfin, tout de même, ça fait le troisième témoin. Alors, ça, on a beau avoir du bon sens, avoir de la confiance, ben, ça vous tape là-dedans. Enfin, regarde, je me suis dit, je vais aller voir un coup, je serai plus gai. Il vaut mieux ça que de se noyer.
Tu as raison, va boulanger, prends ta cuite, ça te soulagera. Après, on ira te coucher. Hein?
Ah. À la vôtre.
Il n'était pas habitué, mais il a bien dit Pernod.
Il a bien dit Pernod. Alors, il ne faut pas oublier que Pernod était le leader qui a exporté dans le monde entier. Et c'était un produit de qualité. Et dans les cafés, à l'époque de l'absinthe, on disait déjà « garçon, un Pernod ». Et au moment de l'interdiction, l'usine a été vendue à une chocolaterie parce qu'il ne servait plus à rien. Et la marque avait une valeur marchande. Et elle a été rachetée par un distillateur de Montreuil, la maison Aymar. Donc, ils vont continuer à faire du Pernod. C'est-à-dire que la même formule en retirant la plante absinthe qui est interdite. Donc Pernod, qui a une antériorité de 130 ans, joue un peu sur cette gloire passée et ne voit pas que Ricard a un concept tout à fait moderne, un produit nouveau et qui s'appuie sur Marseille, sur la Provence, sur le soleil, la mer.
C'est l'identification de la boisson anisée de Marseille. Là.
Voilà, donc il va y avoir une guerre entre les deux. Ricard s'entoure de chanteurs comme vous avez vu Tino Rossi, Fernandel, de sportifs qui montrent la bonne santé, alors que Pernod va avoir une communication ringarde. Ils vont inventer une sorte de marionnette appelée Arthur, et sur les radios à longueur de journée on disait « et un Pernod pour Arthur ». Et donc il va y avoir une guerre par onde interposée entre les deux juste avant la guerre.
La guerre rebelote. On avait à peine tiré parti des lois favorables de 32 et de 38 que, patatras, le régime du maréchal réveille contre le pastis la législation qui avait été établie pendant la guerre précédente.
Pendant la guerre, je partais sur mon cheval au galop et je criais « Vive le Cacamande ! J'emmerde le maréchal Pétain et son gouvernement ! Vive la Camande ! Ici, c'est la liberté !»
Dans les bars, on entend qu'il délivre, vers ce qui est marqué sans regret, un petit Ricard.
Ils sont peu nombreux, les patrons comme Paul Ricard, qui ont su maintenir l'activité de leur entreprise sans compromission avec l'occupant. Lorsqu'en août 1940, pour des raisons morales, le gouvernement de Vichy lui interdit de produire son pastis, ce patron à l'âme populaire ne se laisse pas abattre.
On a fait un vermouth, on a fait des jus de fruits. Du jus de raisin.
Mais vous n'avez jamais été tenté de licencier votre personnel ?
Il fallait bien qu'il vive.
Il envoie en Camargue une partie de ses ouvriers pour produire du riz. D'autres vont en Ardèche, où il possède une propriété.
Dans l'Ardèche, on avait l'armée secrète là-bas. Nous avions monté une distillerie, l'alambic, des cures, et faisait de l'alcool carburant pour le maquis.
Oui, alors Paul Ricard, c'est la construction de toute une histoire au service de laquelle se mettent d'innombrables journaliste, maintenant le musée des arts décoratifs à Paris. Oui, c'est l'épopée de la lutte aux côtés des résistants contre le maréchal. Mais enfin, la lutte est continue après contre l'administration de la 4e République. Parce que la loi n'est pas levée dès la libération.
Non, la loi n'est pas levée. On lève un peu les autres alcools, on droit de cité, mais le pastis, non. Alors ça, c'est dû en partie à une députée des Bouches-du-Rhône, de Marseille, Madame Poinceau-Chapuis.
Alors on va s'arrêter à Madame Poinceau-Chapuis, parce que vous ne savez peut-être pas que c'est celle qui a déterminé la vocation politique de Jean-Claude Gaudin. Et alors, Paul Ricard, elle était ministre de la Santé aussi, l'appelait chapeau pointu.
Non, je ne savais pas.
Et alors, il la détestait, c'était une démocrate chrétienne.
Et donc, elle avait l'exemple du pastis et de Marseille. Elle ne voulait pas que le pastis se répande dans toute la France. Pour elle, c'était un flot d'alcool qui allait partir sur toute la France. Donc, ça n'a pas empêché de faire du pastis quand même. Une quarantaine de distillateurs clandestins ont fait leur pastis. Une petite dîme était prélevée par le syndicat pour financer d'éventuels procès. Et puis, finalement, l'État s'est dit... toute cette fraude, tout cet argent serait mieux dans nos caisses et donc à libérer complètement la loi.
La libération du pastis, c'est pas 45, c'est 49. La libération
oui,
du pastis.
Oui, 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 49,
je parle comme Paul Ricard.
Oui, 49. Oui, oui.
Et alors, la définition du pastis telle qu'elle est maintenant, c'est ça. C'est cette, ça date de cette loi-là.
Oui, donc le pastis est fixé à 45 degrés et doit contenir un certain taux d'anis, différentes plantes anisées, enfin et de sucre, enfin voilà, des recettes de spécialistes, on va dire.
La lutte continue tout le temps parce que dès 51, ça doit être encore une affaire du MRP, des démocrates chrétiens, une loi interdit la publicité par affiche et par presse pour les produits anisés. C'est pour ça que Ricard va produire, pour contourner cette loi, alors, tous ces objets qui sont exposés aux arts décoratifs.
Il a une conception tout à fait moderne de la communication. On ne parle pas de publicité, on parle de communication. Donc il envoie des commerciaux, on appelait ça une structure de propagande, qui allait dans les cafés, au plus proche des cafetiers, des consommateurs.
Vous voulez qu'on cite encore un nom d'homme politique ?
Si vous voulez.
Là, ce sera Charles Pasqua, qui était quand même directeur des ventes.
Effectivement.
La Ricardie. Continuez.
Oui. Et donc, on entre dans un monde moderne de communication qui se passe finalement des affiches ou des publicités classiques.
Et donc, puis, le pot à eau qui retient les glaçons.
Voilà,
le
il va y avoir tout ça, oui.
Les circuits de voitures. Au moment de la crise de Suez, il a une invention. Le pétrole
formidable.
Coûte très cher. C'est quoi son invention ?
Eh bien, il va faire livrer ses caisses d'absinthe par des chameaux et les représentants sont habillés en Touareg.
C'est de cette époque que date la conversation que voici en Algérie, entre Français d'Algérie dans les chevaux du soleil.
Hector, mon Dieu, c'est toi ! C'est ton frère Désiré, viens vite !
Hector, d'où est-ce que tu débarques ?
Suez, je suis arrivé avec les parachutistes.
Entre, entre.
Alors ?
Mon vieux Désiré, sans l'ultimatum des Russes, on avait la victoire.
Hein ? Sors les verres, j'apporte la nisette.
En quelques heures, on pouvait être au Caire.
Bon, et alors ?
Alors, les Russes et les Américains ont tout stoppé, pour éviter un conflit mondial.
Ah, c'est Nasser qui doit être content. Il a sa nationalisation. Tu vois, Hector, les Égyptiens, pour moi, c'est comme les Arabes ici. Salopards. Tous des salopards.
Qu'est-ce qu'on leur a fait à tous ces bicots, mon Dieu ? Nous les avons sauvés de la misère et regarde la récompense. Ils tuent les Français.
Santé.
Santé. Santé.
Tout ceci pour vous dire que si vous êtes à Marseille ce week-end, si vous voulez retrouver les fondamentaux de la Méditerranée, un week-end de réflexion sur le rapport Algérie-France en partenariat avec France Inter, c'est au Théâtre de la Criée, c'est organisé par Marianne, un beau programme dont on peut retrouver le lien sur notre site. Si vous êtes dans la région parisienne, vous pouvez aller à Auvers-sur-Oise, le musée de l'absinthe animé notamment par Marie-Claude Delahaye ouvre tous les week-ends, on vend de l'absinthe.
Alors, on vend de l'absinthe, puisqu'on en retrouve depuis 1999. Donc, ça s'est appelé tout d'abord spiritueux aux plantes d'absinthe. Et puis, l'an dernier, la loi de 1915 a été complètement supprimée. Donc, aujourd'hui, on a des produits qui s'appellent absinthe. Au degré alcoolique, comme dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut trouver de l'absinthe à 68 ou 72 degrés. Ce qui est réglementé, c'est la molécule contenue dans l'huile essentielle d'absinthe, la thuyone, qui ne doit pas excéder 35 mg par litre.
Il y a beaucoup de marques d'absinthe ?
Il y en a une trentaine en France et plusieurs issues des distilleries de l'époque.
Et le charme de la transgression, Marie-Claude Delahaye ? On peut citer un troisième homme politique, François Mitterrand, 1981. Vous vous souvenez de ce qu'il a fait ? C'était en Suisse.
Ah oui, le soufflet à l'absinthe.
Il a commandé un soufflet glacé à l'absinthe. Mais jusqu'au bout, il a aimé les transgressions alimentaires.
Car le pastis 51, c'est frais, léger, ça flatte l'appétit. Quelle couleur et quel parfum, c'est tout le soleil du midi. Et alors, on le boit ce pastis 51.
Allez, on citait encore une autre marque, parce qu'il fallait annoncer, dernière annonce, l'Expo Ricard depuis 1932 aux Arts Déco à Paris, mais enfin, Pastis 51, ça appartient au groupe Pernod Ricard, dont maintenant
c'est
l'effort.
Oui, c'est une marque Pernod, malgré tout.
Se porte surtout sur les vodkas Et les whisky, rien ne va plus, comme diraient les tontons flingueurs. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Lydvine Caron, Élodie Royer, Camille Poux, Gélaguier, Franck Olivard et Frédéric Martin. Il est 14h, vous écoutez France Inter.